Et oui, rouler propre. Pour défendre cet objectif, le gouvernement a dévoilé la semaine dernière de nouvelles mesures pour favoriser les alternatives à la voiture individuelle et verdir les transports traditionnels. C'est un enjeu de santé publique. La pollution de l'air est à l'origine de 48 000 morts prématurées chaque année en France. Le plan du gouvernement prévoit la mise en place d'ici 2020 de zones à faible émission pour y restreindre la circulation des véhicules les plus polluants. Cela concerne une quinzaine d'agglomérations, le développement du covoiturage avec des voies réservées, le renforcement du bonus-malus à l'achat d'un véhicule neuf en fonction de ses émissions de CO2, l'aide au déploiement des bornes de recharge pour les véhicules électriques. En revanche, pour l'instant, pas de grand plan vélo, on en saura plus à la rentrée. Alors, quelle efficacité pour ce plan mobilité propre ? Comment l'appliquer ? Quelles conséquences à travers l'ensemble de la France avec ses villes et ses campagnes ? Le téléphone sonne, c'est votre émission. Appelez-nous 01 45 24 7000. Bien sûr, le site franceinter.fr. Nos invités, Pierre Canet, qui est responsable des programmes climat, énergie et ville durable au WWF France. Bonsoir Pierre Canet.
Bonsoir.
Et puis au téléphone, Jean-Luc Fugit, qui est député La République En Marche du Rhône, tout récent président du Conseil National de l'Air. Il est aussi membre de la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire à l'Assemblée Nationale. Bonsoir Jean-Luc Fugit.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous et dans quelques secondes, le standard.
Pierre Veille. Le téléphone sonne.
Premier appel, Jean-Baptiste à Lyon. Bonsoir Jean-Baptiste.
Oui, bonsoir. Merci pour votre émission.
Bienvenue sur l'antenne.
J'avais une question. Là, on est en train de dire que les véhicules électriques, c'est une alternative qui peut être durable pour remplacer tout ce qui est véhicule thermique. Est-ce que c'est pertinent de dire qu'aujourd'hui, cette voiture est la voiture de demain, quand on sait que c'est pas forcément un véhicule si propre que ça sur la fabrication, et que sur le plan économique, il faut remplacer le parc automobile entier, et que voilà, il y a des complexités sur les extractions de métaux notamment.
Jean-Luc Fugit, vous voulez répondre à Jean-Baptiste qui reste un peu perplexe face aux vertus écologiques de la voiture électrique?
Oui, bonsoir. Donc sur le véhicule électrique, comme tout véhicule, il ne s'agit pas d'un véhicule propre, parce que le véhicule propre, ça n'existe pas, l'énergie propre n'existe pas, si ce n'est, comme on le dit souvent, celle que nous ne consommons pas. Le véhicule électrique, en revanche, aujourd'hui, fait partie des solutions intéressantes pour lutter face aux problèmes de pollution atmosphérique que nous avons dans les agglomérations. Je rappelle que les polluants principaux sont les particules fines, c'est un fait, mais surtout les oxydes d'azote. Et avec un véhicule électrique, vous n'avez pas d'oxyde d'azote. Et donc, cette pollution de proximité, qui est une pollution qui est un véritable fléau sanitaire, et une pollution qui, comment dirais-je, la plupart dans les agglomérations des habitants sont soumis à une pollution de fond, qui est une pollution moyenne qui pose beaucoup de problèmes de santé. Eh bien, cette pollution, si on souhaite la faire disparaître, eh bien, entre un véhicule diesel ou essence sans plomb et un véhicule électrique, il n'y a pas photo. Le véhicule électrique, lui, n'émet pas d'oxyde d'azote. On peut simplement faire une petite remarque. Je suis d'accord avec l'idée que quand on fait une analyse complète du cycle on peut rappeler le cycle de vie du véhicule électrique, il est évident que ce n'est pas un véhicule parfait, comme le sont les véhicules diesel ou véhicules à essence sans plomb. Mais pour ce qui concerne la pollution atmosphérique en agglomération, en milieu dense, en milieu urbain, c'est une solution nettement plus favorable que les véhicules thermiques.
Pierre Canet pour le WWF France.
Oui, alors c'est intéressant parce que côté qualité de l'air, effectivement, c'est tout bénéfice par rapport à d'autres véhicules. Sur le climat aussi, on a pu le mesurer, WWF, avec un rapport qui est sorti en décembre dernier pour la Fondation pour la Nature et pour l'Homme. Et nous avons mesuré sur l'ensemble du cycle de vie la différence entre le véhicule électrique de sa fabrication à finalement la fin de vie, en le comparant avec le diesel et essence. Et c'est 2 à 3 fois moins d'empreintes écologiques que ces véhicules actuels diesel-essence. Et donc la question est de savoir à quel rythme on va pouvoir accélérer justement le remplacement de ces diesel-essence par du véhicule électrique. Et bien entendu, l'objectif, c'est de ne pas remplacer tout le parc actuel par du véhicule électrique et d'aller vers d'autres formes de mobilité, oui, c'est-à-dire l'autopartage, mais bien entendu le vélo.
Alors, sur les voitures électriques, on a reçu ce courriel de Jean-Pierre. Je vous le lis. « Toutes ces mesures sont injustes pour ceux qui vivent à la campagne, qui ont besoin d'une voiture. Alors, allez-y, continuez avec des malus. Comment on fait pour se déplacer à la campagne ? Une voiture électrique, vous avez vu le nombre de bornes électriques en France et l'autonomie d'une voiture électrique, c'est 200 kilomètres. Alain, ce plan transport ne correspond pas à la France réelle, inadapté pour la ruralité ou hors grandes agglomérations. Il s'agit d'une écologie punitive, dogmatique, déconnectée des réalités. » Jean-Luc Fugit, sur ces points, je rappelle Jean-Luc Fugit qui est député La République En Marche du Rhône et qui est président du Conseil National de l'Air.
Alors écoutez, je n'ai pas tout à fait la même appréciation donc que l'auditeur qui a écrit donc ce courriel.
Vous reconnaissez que les bornes électriques, il n'y en a pas beaucoup quand même, pour l'instant.
Alors,
ça manque.
Dans l'ensemble des solutions qui sont proposées et qui ont été annoncées, il y a justement la volonté de développer de manière très importante les bornes électriques. D'autre part, on sait très bien qu'avec les progrès technologiques, on va aller vers des véhicules de plus en plus, avec une autonomie de plus en plus importante. Et il faut aussi regarder du côté de l'hydrogène, qui est un vecteur énergétique assez intéressant, et qui permet donc, là aussi, d'avoir des véhicules électriques qui fonctionnent avec de l'hydrogène vert. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est le plan de développement de l'hydrogène qui a été annoncé le 1er juin dernier, et qui permet d'aller vers des véhicules, donc une production d'hydrogène donc avec les énergies renouvelables, et ensuite l'utilisation avec des piles à combustible qui permet d'avoir des rayons d'action sur des véhicules plus importants. Tout ceci est en train de se développer, et les milieux ruraux ne sont surtout pas oubliés. D'ailleurs, dans le cadre global de la future loi d'orientation des mobilités, il y aura des mesures en direction de ces territoires, de ces publics.
Lesquels ?
Alors, par exemple, donc, vous allez avoir une meilleure organisation du territoire, puisqu'aujourd'hui, il y a une partie du territoire où il n'y a pas d'autorité organisatrice donc des mobilités, et la loi y mettra fin. On aura une organisation à tous les niveaux, et puis encore une fois, sur la partie borne électrique, on va en ajouter. Il n'y a aucune mesure punitive dans les mesures que j'ai entendues l'autre jour. Il y a simplement l'envie de proposer à la fois aux entreprises, à la fois aux citoyens, à la fois aux collectivités des opportunités pour essayer d'avancer de manière vraiment collective vers des mobilités à la fois plus innovantes, plus propres.
Jean-Luc Fugit, vous dites...
Et qui tiendront compte de toutes les réalités, y compris les territoires ruraux.
Vous dites qu'il y aura une nouvelle organisation pour favoriser le développement en milieu rural, mais j'ai toujours pas compris concrètement qu'est-ce que ça va changer pour les gens qui veulent se déplacer dans les campagnes. Il y a des grandes distances, là.
Il y a aussi un certain nombre de mesures qu'il va falloir développer concrètement. Si on veut être extrêmement concret, il faut développer donc le covoiturage. Oui. Il faut prendre des mesures pour cela. Il faut développer les transports en commun. Il y a des lignes TER, j'en ai moi par exemple dans ma région, notamment je pense entre les agglomérations de Saint-Étienne et de Lyon, pour prendre un exemple concret. Vous avez une ligne de TER qui aujourd'hui pourrait devenir, avec des investissements, avec de l'amélioration au niveau des parkings, etc., une véritable ligne de RER avec des trains tous les quarts d'heure. Tout ça, on sait que c'est possible. Mmh. Évidemment, c'est possible si on y met des moyens. Donc, il faut du temps, il faut prendre des décisions dans un cadre législatif constructif et avec des échanges avec l'ensemble des collectivités, l'ensemble des partenaires. Donc concrètement, ça consiste à s'organiser ou à se réorganiser. Et je pense qu'il ne faut surtout pas opposer les territoires ruraux et les territoires urbains. Si je peux me permettre, je rajoute une autre piste qui peut au départ être un peu surprenante, et je voudrais être bien compris là-dessus, c'est la partie numérique. Je m'explique. Aujourd'hui, les évolutions législatives de ces derniers mois ont permis, par exemple, de développer ou de donner accès meilleur accès au télétravail. Le télétravail qui est donc quelque chose qu'on doit discuter entre l'employeur et l'employé. Mais ceci demande d'avoir des infrastructures numériques intéressantes et importantes. C'est la raison pour laquelle, en parallèle de ce qui est fait sur les mobilités, il y a aussi un plan l'équipement de la France en très haut débit ou en fibre optique à tous les niveaux, le développement des espaces de coworking, etc. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est absolument pas, parce que si vous avez des personnes qui, au lieu de se déplacer 5 jours par semaine pour se rendre dans une agglomération, dans leur entreprise ou leur administration, ne se déplacent plus que 3 ou 4 jours, eh bien ce sont des gens en moins sur les routes, et c'est de la congestion de moins sur les véhicules, c'est des personnes en moins pour le train. Et donc tout ceci, vous voyez, c'est un ensemble. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a une exigence sociétale importante en termes de mobilité, moi je le comprends largement, et aujourd'hui, il n'est pas question d'oublier les territoires ruraux, faites-moi confiance.
Pierre Canet, est-ce que vous pratiquez ou est-ce que vous défendez une écologie punitive, pour reprendre
d'Alain? Pas du tout, et sur le véhicule électrique, ce qui est très intéressant, c'est qu'apparemment la marque aux losanges nous disait que les ventes de véhicules électriques étaient importantes en milieu rural. Donc il faut aller voir les chiffres et les statistiques des véhicules électriques en ce moment, et ça n'est pas une offre réservée au monde urbain, c'est bel et bien ouvert au monde rural actuellement.
Mais il faut des bornes.
La question, c'est les bornes, et c'est donc les investissements qui sont à mettre, et pour cela, le plan qui va être présenté à la rentrée finance pour 2019, c'est-à-dire le budget de l'État, doit consacrer justement des incitations, notamment pour l'ensemble des entreprises qui sont aussi implantées en monde rural. On a d'ores et déjà, vous le savez, le monde rural, c'est aussi les énergies renouvelables. Et il y a, au pied d'énergies renouvelables, d'éoliennes par exemple, des offres qui sont de plus en plus tournées justement vers le véhicule électrique, car ce véhicule électrique joue aussi un rôle dans la transition énergétique, où les batteries pourront servir à stocker l'énergie, l'électricité intermittente des éoliennes. Donc il faut voir ça dans un écosystème. Et puis bien rappeler, quand on parle de qualité de l'air, de climat, que un quart des trajets des Français sont en voiture moins de 3 km. Moins de 3 km. Alors lorsqu'on parle de la ruralité, c'est important, mais lorsqu'on va au-delà de savoir comment traiter le problème, il faut s'intéresser à ce quart de déplacement qui concerne les moins de 3 km. Et puis les véhicules solistes, c'est-à-dire 80%, à peu près 2/3 des Français se déplacent seuls pour aller au travail dans leur véhicule. Il va falloir éviter cela, et les propositions du gouvernement en matière de numérique, en matière aussi de forfait mobilité, c'est-à-dire comment les entreprises vont pouvoir soutenir d'autres formes de mobilité que ces véhicules solistes, et bel et bien aller vers de l'autopartage, avec ces voies justement qui seront réservées à l'autopartage,
mais ces voies,
et au vélo,
falloir,
et à l'intermodalité.
Ces voies, par exemple, spéciales pour le covoiturage, il va falloir les construire, les réaliser. Là encore, il faut beaucoup d'argent.
Vis-à-vis de la voierie, quand on parle d'argent,
parce
il s'agit de comparer...
Parce qu'on parle de couloirs qui ressemblent aux couloirs de bus.
On parle de couloirs, donc de voies qui étaient à la base réservé à des véhicules solistes qui seraient là pour aller plus vite, réservés au covoiturage. Oui. Et en plus de ces voies, c'est bel et bien aussi l'espace qui sera laissé au transport en commun et au vélo. Et donc, ces décisions, elles sont attendues pour le mois de septembre en termes de chiffrage, et bel et bien se dire que effectivement, ça n'est pas le tout voiture, mais bel et bien aussi l'espace qui sera laissé dans les voiries au vélo à travers ce plan vélo qui apparemment est annoncé comme un plan d'envergure.
On va y venir. Didier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
C'est à vous maintenant, vous êtes sur l'antenne. On écoute votre question.
Alors, je suis sur l'antenne, et je suis surtout à Haute-Rive, à 30 km au sud de Toulouse. Oui. Donc, on est à la grande banlieue toulousaine.
Oui.
Haute-Rive, c'est une ville qu'on peut qualifier de plus ou moins de dortoir. Donc, il y a énormément de gens qui vont travailler au nord vers Toulouse et d'autres qui vont travailler vers Pamiers, vers Foix et tout ça. L'an dernier, le 4 septembre au matin, on était sur le quai de la gare et on nous annonce que notre train est supprimé. Mais pas supprimé, incident de personne ou quoi que ce soit. Supprimé. Notre train n'existe plus. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans train. C'est-à-dire qu'à 30 km de Toulouse, on ne peut même plus aller travailler et arriver à l'heure à 8 heures, à Pamiers par exemple, et voire même à Toulouse. La cerise sur le gâteau, c'est que ce fameux train de 6h48 qui nous permet à tous d'arriver à l'heure, il existe encore. Mais c'est le train de nuit Paris, la Tour de Carole, donc c'est pas une petite ligne, c'est pas une transversale, là je parle d'une ligne nationale quand même, hein. Et notre train était remplacé par ce train de nuit Paris-La Tour de Carole, avec interdiction de monter dedans, parce qu'on ne monte pas dans un train intercité avec un ticket de TER.
Oui.
Donc on s'est retrouvé énormément de gens qui allaient travailler comme moi à Pamiers, qui se sont retrouvés du jour au lendemain, au lieu de prendre leur voiture, pour arriver à l'heure. Alors je vous fais le bilan, ça fait 60 km par jour, 60-70 pratiquement, multiplié par 5, donc ça fait 300 par semaine, multiplié par 4, ça fait 1200 par an, multiplié par 11, je vous laisse faire le calcul, ma voiture a vieilli de 13 000 km en un an pour aller au travail. Maintenant, le bilan carbone et le bilan argent. Voilà. C'est quand même assez catastrophique.
Situation vraiment absurde, on dit il faut utiliser les transports en commun, et dans votre cas, bien les transports en commun, ils disparaissent. Jean-Luc Fugitte.
Alors écoutez, moi je connais pas le cas particulier que vous venez d'évoquer, mais je suis d'accord avec l'auditeur, le constat qu'il fait, et je dirais sans appel, et nous fait un petit peu, voir rouge, si je peux me permettre de parler ainsi. Bon, je crois qu'en effet, il faut, ça prouve qu'il y a besoin d'une organisation des transports qui soit beaucoup plus efficace. Et si on veut gagner en efficacité, ben je crois qu'il faut mettre les bons acteurs autour de la table, et c'est la raison pour laquelle ça peut paraître là aussi anodin, mais ça ne l'est pas. La réforme de la SNCF qui a été faite récemment donc a permis de réorganiser cette société qui est vraiment un joyau national que tout le monde veut défendre et dont on veut améliorer donc l'implication sur le territoire. Mais force est de reconnaître qu'il va falloir regarder sur l'ensemble du territoire et dans ces zones dites peu denses, et vraiment comment on organise, et moi je trouve que le cas que vous soulignez ici montre bien qu'il est temps d'organiser différemment les transports et de privilégier, comme c'est annoncé vendredi par une volonté de la ministre des Transports, donc de faire en sorte que le développement des transports en commun soit beaucoup plus important. Je remarque que ce qui a été beaucoup évoqué vendredi, c'est la notion d'engagement réciproque entre l'État et les collectivités. Oui. Et je crois que beaucoup va se jouer là-dessus. On en parle notamment autour d'un sujet important dont on n'a pas trop parlé ce soir. Pour l'instant, le déploiement des zones à faible émission, si on ramène ça au problème de pollution de l'air. Mais je pense que c'est cette histoire de proposition d'engagement donc réciproque entre à la fois les collectivités et l'État, c'est aussi extrêmement important pour l'organisation territoriale de tous les transports.
En tout cas,
et bien entendu, les transports en commun, ça me paraît fondamental.
Les auditeurs sont plutôt inquiets. Ce courriel de l'Or, comment se fait-il qu'il ne soit pas mentionné les transports publics ferroviaires comme alternative pour moins polluer ? La réforme SNCF va avoir pour conséquence une baisse des petites lignes, ce qui ne va pas dans le bon sens. Il y a beaucoup d'autres courriels qui disent à peu près la même chose. Pierre Canet pour WWF France.
Oui, le ferroviaire, c'est une des solutions clé et les transports en commun doivent être soutenus. Et
mais
donc,
si on ferme
on en
des
appelle
petites lignes
au gouvernement, et également ces petites lignes, elles correspondent à un investissement de la part des régions. Il y a quand même une responsabilité des régions. On est dans une démarche également de décentralisation. Et puis les métropoles, puisque là, Didier nous parle du cas de Toulouse, il y a la métropole de Toulouse et sa responsabilité de mettre en place des solutions qui permettent justement aux riverains, aux différentes communes, de pouvoir se rendre sur leur site de travail. Et ça pose la question également pour Didier de là où est implantée son entreprise, de savoir si son entreprise ou si le pôle industriel dans lequel il travaille, eh bien, a mis en place aussi des solutions pour l'ensemble, puisqu'à Toulouse, on est sur des sites industriels qui sont conséquents, et donc la responsabilité des entreprises de mettre en place ce qu'on appelle des plans de déplacement inter-entreprises. On voit que les entreprises parfois sont en retard sur ce plan.
Qu'est-ce qu'il y a dans ces plans pour inciter
des moyens? Justement, on parle d'un forfait de mobilité, donc c'est le besoin des entreprises de soutenir des alternatives, de financer par exemple l'indemnité kilométrique vélo, de financer les transports et donc les frais liés au transport, mais aussi dans les alternatives, de s'organiser de façon à ce que les salariés qui se rendent au même endroit et qui potentiellement pour certains vivent au même endroit puissent s'organiser en termes de covoiturage, en termes d'horaire de transport aussi, car on le sait, au-delà du train, il y a les questions d'embouteillage et de trafic. Et donc tout cela est aussi de la charge des entreprises. Donc les plans et les mesures qui ont commencé à s'esquisser vendredi de la part du gouvernement, ça marche comme un partenariat. On attend les entreprises et les collectivités également au tournant, à condition effectivement qu'ils disposent des moyens, et donc le budget sera un élément considérable.
Donc vous souhaitez que les entreprises participent aux frais de transport comme ça se fait actuellement, lorsque l'entreprise paye une partie de l'abonnement au transport en commun?
Tout à fait. Et pourquoi pas aller aussi au-delà sur justement ces nouvelles mobilités, que ça soit le covoiturage, mais également le vélo, l'indemnité kilométrique vélo.
Jean-Luc Fugitte, vous vouliez dire un mot ?
Oui, alors un mot rapide sur par rapport à la SNCF, donc dire aussi que dans le cadre de la réforme, il y a aussi des investissements qui ont été annoncés, hein, 3,6 milliards par an sur 10 ans, c'est-à-dire 10 millions d'euros d'investissement sur les infrastructures de la SNCF. Donc, et comme vient de le dire de manière très brillante Monsieur Canet, donc en effet un partenariat avec les régions, avec les métropoles, donc avec les autorités locales. Dire un mot sur le plan vélo, c'est vrai qu'il n'a pas été encore présenté, il le sera au mois de septembre, mais moi je crois que là il y a quelque chose de très important. Nous avons, on estime rapidement, on est souvent très nombreux à estimer que nous avons 10, 15 voire 20 ans de retard par rapport à d'autres pays sur ce volet-là. Donc il me semble que là il y a quelque chose d'important à jouer. Le vélo pour les déplacements domicile-travail, c'était 10% de part modale il y a 40 ou 50 ans. Aujourd'hui on est tombé à 3%. L'idée c'est de remonter à 10%. Et pour cela, il faut se donner des moyens. Et je suis moi favorable, en tout cas je le dirai dans le cadre de la discussion à la fois budgétaire et dans le cadre de la loi de rentabilité et mobilité, favorable à ce que on ait de vraies mesures et de vrais financements pour accompagner ce plan vélo, auquel je crois, parce que c'est vraiment, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on estime qu'aujourd'hui c'est 40% hein, des déplacements domicile-travail qui font moins de 4 ou 5 kilomètres, donc il y a sûrement des choses à faire. Et ce que je voudrais dire, c'est que les orientations qui ont été présentées l'autre jour, on était plus sur le volet mobilité propre, même s'il y a d'autres volets autour de l'innovation, les infrastructures qui viendront dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, ce sont des mesures qui sont sorte de mesures, je dirais, contractuelles, en tout cas d'échanges et d'engagements réciproques entre à la fois les collectivités, encore une fois, l'État, les entreprises et les citoyens. Et l'idée, c'est pas faire du punitif, oui. C'est simplement d'essayer d'avoir une sorte de pic de solution, si je peux m'exprimer ainsi, une somme de solutions qui permettent de lutter, alors, si je me permets de parler de pollution d'air, de lutter contre la pollution de fond et les pics de pollution. Et puis d'essayer de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Et bien. Je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il n'est pas question d'oublier quelques territoires que ce soit, et notamment les zones peu denses et la ruralité. Il n'est pas question de les oublier, et encore moins d'en faire que les citoyens qui se retrouvent en zone rurale se retrouvent, entre guillemets, punis. Donc je pense qu'il faut un peu plus avoir de confiance et travailler ensemble. Et dernier point, si vous me permettez.
Pas trop long, parce qu'il y a beaucoup d'appels, monsieur Fugit.
Oui, je comprends bien. Mais rapidement, un point quand même, je voulais dire que les mesures qui ont été présentées vendredi, les grandes lignes de la loi d'orientation de la mobilité, ce qui arrive dans le plan vélo, tout ceci a été discuté dans le cadre des assises de la mobilité avec beaucoup de partenaires, et il ne s'agit pas de discussion rien qu'entre élus, hein, il s'agit de discussions avec les collectivités, avec les usagers, avec des organisations telles que celles que représente M. Canet, et, etc. Et donc je pense que il y a des points de convergence évidents et qui vont être trouvés.
Au standard, Gilles, bonsoir Gilles, vous vous trouvez dans quelle localité, Gilles?
À Bron, dans les Côtes d'Armor.
Très bien, c'est à vous, merci d'être avec nous.
Tout d'abord, merci pour l'émission de 19h20 Téléphone Sonne, qui respecte mieux l'auditeur que l'émission de 8h30 le matin.
Mais
parce qu'on nous appelle et on peut pas poser sa question.
Ah, il y a beaucoup d'appels, quelquefois, oui, mais faut choisir.
On nous dit qu'on passe pas à l'antenne et c'est classé, on raccroche.
Mais écoutez, ça, cette frustration, je la connais.
Mais je n'admets pas.
Croyez-moi, le matin, ils sont mobilisés, ils font le maximum. Il y a énormément d'appels et tout le monde ne peut pas venir sur l'antenne. Mais croyez-moi, Frédéric Mettezo fait le maximum.
Au téléphone.
Allez-y, allons-y.
Ma question. Donc je suis tout à fait d'accord avec les mesures préconisées pour que la planète devienne bleue et verte. Mais par contre, est-ce que ces mesures ne vont pas pénaliser les plus pauvres qui auront du mal à changer de voiture parce que c'est des voitures neuves qu'il faudra acheter et ça va coûter cher?
Pierre Canet.
Oui, alors là-dessus, on a eu des gages qui sont quand même intéressants. De savoir que, par exemple, il y a des primes à la casse, une prime à la casse qui a été mise en place de 2 500 € pour changer de véhicule avec 6 000 € de prime à l'achat, notamment pour des véhicules électriques ou véhicules propres. Donc, il y a un accompagnement qui est fait. À savoir que lorsque vous avez un véhicule plus propre, vous avez donc un tiers en moins lié à cette prime. Vous avez un tiers en moins en termes de fonctionnement parce que lorsqu'il est utilisé, si vous tournez à l'électricité, c'est mieux qu'au carburant qui varie en fonction des prix du baril. Et puis, dernièrement, lorsque vous voulez revendre votre voiture dans 10-15 ans, lorsque vous aurez une quinzaine de territoires potentiellement qui auront fermé leur centre et leur accès aux véhicules diesel, eh bien, la valeur économique de vos véhicules aura baissé. Donc, c'est conseiller l'ensemble des auditeurs d'investir juste et de faire en sorte que, justement, leur choix aujourd'hui corresponde à notre avenir d'ici 10-20 ans. Et puis, de se dire que la pénalité, lorsque vous regardez, par exemple, Paris, vous avez, eh bien, à peu près 2/3 des usagers qui sont des CSP+, dans Paris, de véhicules. Donc, on voit ici que la mesure, elle n'est pas là pour...
CSP+,
c'est en fait les catégories sociales supérieures professionnelles, ouais. donc avec des revenus qui sont plutôt importants. Et donc de dire que finalement, les personnes qui ont le moins de revenus à Paris utilisent les transports en commun et ne sont pas pénalisées par ces mesures de faible émission et donc d'agenda qui correspond aussi au bien-être des quotidiens des Parisiens et d'autres collectivités comme à Toulouse, Marseille ou Nice.
Cette mobilité durable risque-t-elle de pénaliser les plus pauvres ? Jean-Luc Fugit, c'est la question que posait Gilles.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait M. Canet. En même temps, je voulais souligner que les mesures qui ont été mises en place au 1er janvier dernier, donc de prime à la conversion pour les véhicules, donc aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on a donc 90 000 personnes qui ont bénéficié donc, de cette prime avec une prime de 1 000 ou de 2 000 euros. Et en fait, on s'aperçoit que 70% de ces mesures bénéficient aux personnes qui ont les revenus les plus modestes. Donc c'est très bien, c'est une prime à la conversion qui permet non seulement de... Bon, l'auditeur était inquiet par rapport aux véhicules neufs, en réalité la prime à la conversion elle permet d'acheter des véhicules d'occasion plus récents bien entendu et donc moins polluants. Donc c'est des choses qui vont dans le bon sens et aujourd'hui quand vous avez une prime qui peut être de 2000 euros sur un véhicule et qui peut en coûter 8000, et bien à ce moment-là vous avez un apport qui devient assez conséquent. Donc ça dépasse le nombre de bénéficiaires de cette prime à la conversion. Oui. Il est beaucoup plus important que ce qui était prévu et on a eu l'assurance vendredi que ce serait en plus prolongé sur les années à venir. Donc ce sont des mesures qui sont faites justement pour les plus modestes et faites-moi confiance, moi personnellement et je connais d'autres députés de la majorité qui sont comme moi, donc très soucieux de faire attention aux personnes qui ont les revenus les plus modestes. Ça me paraît le minimum, surtout face au problème de la mobilité qui est un facteur extrêmement important du développement personnel, de l'émancipation et notamment ne serait-ce que pour aller au travail.
Pierre Canet, sur ce bonus-malus écologique.
Oui, puisqu'on parle aussi de foyers modestes, se dire qu'un véhicule qui va rester 95% au repos dans un garage pour un foyer modeste, c'est jusqu'à 6 000 euros par an pour ce foyer. Donc la question c'est de savoir aussi comment on peut sortir du véhicule individuel et est-ce qu'il y a des alternatives justement avec des services à la mobilité qui permettront à l'avenir de ne pas se dire notre foyer on a un véhicule et on a des offres qui nous permettent de se déplacer autrement et qui coûtent moins cher. Un vélo c'est 250 euros par an.
Alors justement pour vous du vélo, pas mal de réactions d'auditeurs plutôt dubitatives. Gilles nous écrit voyez-vous franchement les automobilistes abandonner comme ça la voiture et passer directement au vélo ou en transport en commun, il faudrait développer les possibilités pour les deux roues motorisées de pouvoir rouler, se garer et non les stigmatiser. Et puis encore ce courriel, faire du vélo, d'accord, en plein hiver, est-ce que c'est réaliste ? Que faut-il pour que le vélo se développe dans les villes et comment faire à la campagne ? On ne peut pas se déplacer en vélo sur 15, 20 ou 30 kilomètres. Pierre Canet, grand défenseur du vélo.
Alors, du vélo quand on le peut, donc l'idée n'est pas de passer de vélo partout, mais au maximum. Et on a une grosse marge de progrès parce que 98% des Français savent faire du vélo. Pourtant, ils ne sont que 2% des actifs à l'utiliser. C'est la différence. 10 fois moins.
En plein hiver.
Le Danemark, les Pays-Bas sont aussi des pays où il fait froid. Et pourtant, 30% des utilisateurs, des usagers sont à vélo. Donc la question est de savoir comment d'abord avoir des aménagements qui permettent d'utiliser le vélo. Il y a, quand on parle par exemple aussi de vélo à assistance électrique pour des gens qui ne sont pas forcément sportifs, la possibilité de faire du vélo et de vous dire que lorsqu'on le pratique au quotidien, c'est aussi quelle que soit la météo, du bien-être, parce que lorsque vous êtes seul dans votre voiture, dans des bouchons, eh bien le froid, c'est pas forcément agréable de rester aussi bloqué dans ces bouchons, alors que le vélo vous permet de prendre un peu l'air.
Jean-Luc Fugit, sur le développement du vélo.
Oui, je dirais... C'est totalement ce qui a été dit. J'aurais juste rajouté que dans les aménagements à prévoir, il nous faut prévoir aussi de sécuriser. Sécuriser notamment les pistes, les voies cyclables, parce que je crois que c'est aussi un facteur de développement extrêmement important. Et puis, en effet, se dire que, en fait, si vous voulez, encore une fois, moi je reviens sur l'idée que la loi d'orientation des mobilités et toutes les mesures qui vont être proposées, qui vont être travaillées à l'avenir, elles permettent à chacune et à chacun de trouver une solution. Le vélo ne sera pas la solution pour tout le monde, c'est clair, on va pas se raconter l'histoire. En revanche, c'est une solution dont la part modale peut nettement augmenter. Et moi, je suis assez optimiste. Là aussi, à condition que l'on travaille en bonne intelligence et avec les collectivités, avec les entreprises. Et puis, comme l'a très bien souligné M. Canet, on a les vélos à assistance électrique qui peuvent venir aider et un petit peu encourager. Oui. Et puis, regardons ce que font les les autres pays, et puis peut-être qu'on peut s'inspirer de certaines mesures.
Et on sait que ce marché du vélo électrique est en train de se développer à très grande vitesse, hein, si je puis dire. Hein. Ça marche très très bien.
Avec du coup des retombées pour l'emploi et pour l'industrie en France.
Victor, dans l'Ardèche. Bonsoir Victor, merci d'être avec nous, en notre compagnie, et d'intervenir dans le téléphone sonne.
Oui, bonsoir. Alors, moi, je vais parler du transport de marchandises.
Oui.
Et je trouvais qu'on... Enfin, personnellement, je trouvais qu'on n'entendait pas trop parler du transport avec les gros poids lourds, les milliers de poids lourds qui font du nord au sud et d'ouest en est.
Oui.
Et qui traversent toute la France. Et il y aurait un autre moyen autre, ce serait les transports fluviaux.
Oui. Très bien, Victor. On va vous répondre. Apparemment, vous êtes très jeune. Une question, Victor. Ces problèmes d'environnement, de pollution, ça vous inquiète, ça vous préoccupe pour votre avenir quand vous serez un adulte?
Oui, ça m'inquiète parce que des milliers de camions, quand même, c'est pas rien.
Oui, c'est vrai.
Ils font la traversée de la France.
Mais on va vous répondre, Victor. Merci de nous avoir appelé. On a des courriels à ce propos. Hein. Je lis, là, c'est Philippe, dans le plan du gouvernement, il n'y a rien sur le transport des marchandises des camions vers le ferroviaire. Est-ce qu'on a peur des réactions des routiers? Est-ce qu'on craint qu'ils ne bloquent à nouveau les routes? Jean-Luc Fugit.
Oui, alors, donc deux petites remarques déjà. Donc, se féliciter d'avoir un auditeur aussi jeune qui se soucie de ces questions, et ça me fait penser que, étant le co-auteur d'une bande dessinée qui s'appelle Un air suspect, je pense que, au passage, je voulais dire que l'éducation à ces sujets doit être abordée, à mon avis, dès le plus jeune âge. Et donc, je me réjouis de que vous ayez des auditeurs qui s'intéressent à ces sujets si jeunes. Deux remarques, notamment quand on pense, je pense qu'il était de l'Ardèche, donc on pense directement à la vallée du Rhône. La vallée du Rhône avait beaucoup de camions sur l'autoroute. On peut penser au fret, on peut penser aussi au fluvial, qui est pour moi sous-évalué, sous-utilisé, pardon, sur l'axe de la vallée du Rhône notamment. Sur le fret ferroviaire aujourd'hui, j'en ai discuté moi il y a quelques temps avec la ministre des Transports, et il y a des constats qui sont quand même assez importants et presque, je dirais, dramatiques, où on voit que, je parle de ma région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a le fret qui a diminué d'un facteur 3 sur les 15 dernières années. Donc là, il y a véritablement un problème. Alors, je sais que la ministre a annoncé des mesures dans un cadre d'un plan de relance du fret ferroviaire, mais il y a manifestement des marges de progression énormes, et il y a aussi, dans le cadre de la loi d'orientation mobilité, des infrastructures qui, pour la ministre, seront des infrastructures qui permettront de prioriser ce mode de transport.
Dans ce plan...
Et puis sur le fluvial, il y a vraiment des choses à faire aussi, bien entendu.
Dans ce plan du gouvernement, y a-t-il des mesures, des avantages pour les entreprises qui vont utiliser des camions moins polluants?
Alors, il y a la possibilité de s'équiper en camion, de développer les poids lourds, comment dirais-je, il y aura une mesure, alors je n'ai pas le détail de la mesure en tête, mais consiste à favoriser l'acquisition de véhicules propres en termes de poids lourds et de bus aussi pour les collectivités. Donc, le détail de la mesure, je ne l'ai pas, et il va être de toute façon retravaillé dans les semaines qui viennent. Mais il y a aussi l'idée de d'accélérer le déploiement du gaz naturel pour les véhicules, pour les poids lourds. Toujours pour les poids lourds, et aussi là, d'amorcer le développement de l'hydrogène, hein, comme étant un outil de mobilité décarbonée aussi important pour les poids lourds, puisqu'on sait qu'avec l'hydrogène, on aura sûrement la possibilité d'avoir un rayon d'action, donc une autonomie kilométrique plus importante.
Alors...
Et il y a aussi la même démarche sur le fluvial et le maritime, avec là aussi l'idée de mettre en place des critères écologiques pour les nouveaux navires, parce qu'on sait aussi que il faut faire attention à la motorisation actuelle de ces modes.
Jean-Luc Fugit, il nous reste pas trop de temps, 4 minutes, et on a des questions aussi à propos de ces zones à faible émission. Comment va s'effectuer concrètement la mise en place de ces zones à faible émission dans les 2 ans à venir? Ça concerne une quinzaine d'agglomérations. Est-ce qu'on va utiliser le système des vignettes critères tel que ça fonctionne actuellement à Paris? Pierre Canet.
Oui, alors ces zones à faible émission, elles doivent vraiment avancer avec des conditions, celles des alternatives, donc faire en sorte que ces zones où finalement progressivement le trafic ou en tout cas la circulation de véhicules très polluants sera limitée. Il faut aussi associer la population, appropriation, savoir justement comment progressivement il va falloir que les usagers changent de mode de transport dans ces zones, piétonnisation, vélo, véhicules propres, et puis l'aspect contrôle, c'est-à-dire que le gouvernement a donné des gages vis-à-vis du contrôle, car les collectivités seules ne peuvent peuvent pas s'en sortir vis-à-vis de véhicules qui ne seraient pas contrôlés. Et donc des moyens ont été annoncés et seront dégagés pour cela.
Serge à Avignon, bonsoir Serge. Serge n'est plus là. Alors Olivier est à Brest. Bonjour Olivier.
Oui,
bonsoir
bonjour.
Plutôt.
Oui, bonsoir.
Allez-y Olivier.
Moi je pense que c'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs, bon un petit peu comme tout le temps, parce que rien n'est fait dans l'intégration des transports, c'est-à-dire que nous sommes à la fois des piétons, des cyclistes, des automobilistes et des usagers des transports en commun, mais que en plus, que ce soit avec les cars Macron ou la quasi-désertification des lignes TER, qui sont en piteux état et laissées aux finances régionales et départementales, je vois pas comment ça peut être écologique en ce sens. Et à mon avis, je pense que c'est juste une histoire de balance commerciale pour réduire l'importation de pétrole.
Ah, Jean-Luc Fugit.
Alors, je voulais revenir un instant, si vous me permettez, sur les zones à faible émission. Rappelez quand même que quand on parle de zones à faible émission, c'est pour réduire les polluants de proximité. Donc, je le disais tout à l'heure au début de l'émission, il y a quand même un impact sanitaire extrêmement important, un impact sur la santé, il y a des rapports qui ont été faits là-dessus, ça a un coût extrêmement important, il faut... Voilà. Donc, ces zones à faible émission, il y a 15 zones en France qui seront prioritaires. Mais l'idée, c'est aussi de proposer à toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants d'en étudier, d'en évaluer l'opportunité. Et ensuite, d'accompagner plus particulièrement les 15 zones qui aujourd'hui ont une pollution moyenne extrêmement impactante. Sur la remarque de l'auditeur, je crois qu'il faut qu'on soit, de manière collective, un peu plus optimiste et qu'on partage un peu plus les solutions. Je suis bien d'accord avec lui, à la fois des automobilistes, à la fois des cyclistes, à la fois des piétons, à la fois des utilisateurs de transports en commun. C'est justement ceci qu'il faut améliorer, c'est le passage, créer une continuité d'un mode de transport à un autre et sortir du tout voiture ou de la pensée unique, entre guillemets, si je peux me permettre de parler ainsi. Donc autour du véhicule. Et moi je crois que les mesures qui sont proposées, qui sont annoncées encore une fois, elles résultent d'assises de la mobilité où il y a eu beaucoup de participation. Et donc il n'y a aucune raison pour que la mise en œuvre des mesures, et notamment il y aura des comités paritaires avec des usagers, avec sur les différentes mesures et sur les différents modes, il n'y a aucune raison pour que la mise en œuvre de toutes ces mesures se traduise par un service moins intéressant et moins important pour la population. Parce que si c'était le cas, il ne faut pas le faire.
Merci, Jean-Luc Fugit.
Donc voilà, soyons optimistes et travaillons. Et moi, je serai, à titre personnel, exigeant et vigilant.
Il nous reste 45 secondes, mais il y a pas mal de courriels. Je résume. Est-ce qu'on va vers une interdiction pure et simple des véhicules à essence dans 5 ou 6 ans? Vous avez 10 secondes pour répondre, Pierre Canet.
Alors, d'ici 2025, effectivement, il faudrait que dans certaines zones, avec une pollution très importante, on aille vers des alternatives. Ça veut pas dire plus de mobilité, mais ça veut dire de la meilleure mobilité qui réponde aux besoins des citoyens et des citadins, notamment.
C'était le Téléphone Sonne. Merci à nos invités. Pierre Canet, qui est responsable des programmes Climat, Énergie et Ville Durable au WWF France. Et puis, au téléphone, nous avions Jean-Luc Fugit, qui est député de La République En Marche du Rhône, qui est le tout nouveau président du Conseil National de l'Air et qui est membre de la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain soir, 19h20.